Bonjour Monseigneur Jean-Marc Mika.
Bonjour Anne-Rose.
Merci de nous retrouver cette semaine encore. Alors on a plusieurs points à aborder et on va commencer cet entretien avec un hommage au Père Abadie qui est décédé le 7 avril, donc en début de semaine, et dont vous avez célébré les obsèques hier jeudi.
Voilà, le Père Paul était une figure qui m'a marqué, oui, un petit peu. Ça fait 3 ans que je le connais et que je l'ai repéré en allant à la maison des Sœurs de Saint-Fray à Tarbes. Et voilà, on avait bien sympathisé, on a échangé plusieurs fois. Quand le père André Cab était l'aumônier de la maison, il m'avait invité à aller rencontrer les prêtres qui étaient là. On avait passé un bon moment ensemble. Et puis chaque année au pèlerinage diocésain à Lourdes. Et là, très récemment, il y a une dizaine de jours, j'étais allé le voir à l'hôpital à Tarbes. Et on avait eu encore un échange très, très émouvant. Alors il était un petit peu en grande difficulté déjà. Mais il m'a parfaitement reconnu et il a prononcé des phrases extrêmement claires pour dire sa foi, sa grande foi en Jésus, son amour de la vie. Et voilà, et me dire des choses comme évêque du diocèse. Enfin, c'était très, très, très touchant et la célébration était il y avait de nombreux prêtres présents à la célébration de ses funérailles. Et c'est toujours un signe, ça. Mmh. Voilà. Il était entouré de ses frères prêtres, une belle manière, une célébration paisible avec les membres de sa famille, 2 frères encore, et puis des neveux, nièces, etc. Une célébration pleine de foi, pleine d'espérance, et puis de sérénité, et puis très priante, ce qu'il avait souhaité. Et voilà, une belle figure de prêtre qui a servi dans le diocèse. Il a été ordonné à Lourdes en 1958, l'année du centenaire des apparitions. Et le lendemain de son ordination, il présidait sa première messe à la grotte. Et il était très très attaché à Lourdes et donc présent à notre pèlerinage chaque année. Il a servi vicaire, curé dans le diocèse. Il était parti pour être religieux et missionnaire. Il avait un très très grand désir d'être missionnaire en Chine, etc. Et malheureusement, à 20 ans, il a été atteint d'une très 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 grave maladie dont il a failli mourir. Et donc, le petit Gersois qui se préparait à être missionnaire en Chine s'est rabattu sur le diocèse de Tarbes et Lourdes. Monseigneur Théas l'a accueilli au séminaire et puis l'a ordonné et incardiné au diocèse de Tarbes et Lourdes, où il a eu ensuite une vie de service de prêtre tout à fait engagé, mais dans les montagnes, parce qu'il avait besoin de la plupart du temps de cette atmosphère-là pour sa santé. Mais un prêtre très aimé, très entouré, très aimant aussi. Voilà, une belle figure de prêtre.
Merci pour cet hommage donc au Père Paul Abadie, qui est décédé donc le 7 avril dernier. On va parler à présent, Monseigneur Mika, on va revenir sur la dernière visite pastorale que vous avez vécue. C'était à Pouillastruc, c'était mardi dernier, le 8 avril. À cette occasion, vous avez comme d'habitude rencontré les habitants, les chrétiens engagés, les élus, beaucoup, beaucoup de personnes, découvert vraiment le territoire. Et il y a des questions qui sont remontées. Alors, ce sont souvent les mêmes questions hein, quand vous rencontrez des chrétiens d'un coin ou dans un autre du diocèse, notamment une question sur la figure des catéchistes, dont vous parlez déjà depuis quelques semaines. Qu'est-ce que sont les catéchistes? Qu'est-ce que vous allez attendre de ces catéchistes, donc ces ministres institués?
Alors le problème avec ce terme de catéchiste, c'est qu'il est un faux ami, comme on dit lorsque on apprend l'anglais ou une langue étrangère. C'est un terme qui évoque des idées qui ne sont pas celles qu'il désigne en réalité. Pour nous, le ou la catéchiste, c'est la personne qui fait le caté aux enfants de la paroisse ou à l'école. Le terme de catéchiste dans le cadre des ministères institués désigne tout à fait une autre fonction dans l'Église, au service de l'Église. Il y a quelques mois, enfin 2-3 ans, le pape François a bouleversé ce qu'on appelle les ministères institués. Il y a des ministères institués, des ministères ordonnés et des ministères confiés. Par exemple, lorsque on lit le dimanche à la messe, c'est un ministère confié. Donc on est ministre de la parole pour le temps où on nous a confié cette mission, c'est-à-dire le temps de la liturgie de la parole ce jour-là. Bien. Les ministères institués, il y en avait deux. C'était les ministères de lecteur et d'acolyte. Même chose, ministre de la parole. Mais c'est un ministère qui est institué à vie. On est à vie instituée au service de la parole. Mmh. Même chose pour l'acolyta, où on est à vie instituée au service de la prière et de l'Eucharistie, de la table de l'autel. Ces ministères dénotent du Saint-Siège depuis régulièrement, invités à les réserver aux futurs diacres et prêtres, de telle sorte que des séminaristes, pendant le temps du séminaire, sont institués lecteurs et acolytes, un an à peu près avant d'être ordonnés diacres, puis d'être ordonnés prêtres. Bien. Le pape François a bouleversé ce dispositif des ministères institués en créant un troisième ministère institué qui n'existait pas. La fonction existait, mais n'était pas un ministère institué. Il en a fait un ministère institué, et surtout en faisant des ministères stables, et non pas seulement des étapes vers une ordination de diacre ou de prêtre, mais la possibilité pour quelqu'un d'être institué lecteur, acolyte ou catéchiste, et de le rester toute sa vie, et de se préparer à recevoir ces institutions, non pas dans la perspective ensuite de recevoir une ordination, mais pour être institué, consacré au service de la parole, au service de l'Eucharistie, et comme catéchiste. Et en faisant cela, il a aussi ouvert l'accès à ces ministères aux femmes. Hommes et femmes peuvent être désormais institués, lecteurs, acolytes et catéchistes. Alors, catéchistes, c'est quoi ? Les gens qui ont été dans les pays de l'hémisphère sud, dans les pays dits de mission, ont approché la réalité de ce que désigne ce terme de catéchiste. En Afrique, en Amérique latine, en Océanie, les catéchistes sont des laïcs qui ont été appelés par l'évêque, par le diocèse, formés et envoyés pour être animateurs responsables de communautés chrétiennes. Il y a des régions du monde, les pays de mission, où le curé, le prêtre responsable, ne réside pas sur place, il réside à une heure, deux heures, trois heures d'avion de la communauté chrétienne. Mais la communauté chrétienne, elle vit comme communauté chrétienne, même si le prêtre n'est pas là, et elle est confiée à un catéchiste, précisément, qui a reçu la formation, à la fois formation à théologie, catéchisme, la foi des chrétiens, et une formation plus pratique, plus pastorale aussi, pour animer la vie de cette communauté, préparer les gens au baptême, préparer au mariage, préparer les funérailles et les présider, animer la prière communautaire, commenter la parole de Dieu, faire des homélies, etc., etc., de telle sorte que les communautés chrétiennes vivent sous la houlette d'un catéchiste pendant des semaines, pendant des mois, et le jour où le prêtre est de passage, eh bien à ce moment-là, il va célébrer les baptêmes, il va célébrer les mariages, il va célébrer l'Eucharistie aux intentions des défunts qui ont été enterrés depuis la fois d'avant, et etc. La communauté, elle vit confiée à un catéchiste. Et donc le pape a souhaité que cette fonction de catéchiste qui existait dans les pays de mission acquiert le statut de ministère institué pour l'Église universelle. Et il nous demande, à nous aussi, Église d'Occident, on n'est pas dans la même situation que les pays dits de mission, et peut-être qu'on l'est plus qu'on ne l'imagine, justement, hein, c'est intéressant, il nous demande de mettre en œuvre tous ces ministères, lecteurs, acolytes, catéchistes, dans nos diocèses, dans nos églises, pour une vision renouvelée de l'Église, de sa mission, et de la prise en charge de cette mission, y compris de son organisation et de son animation pastorale.
Alors est-ce que ça veut dire qu'on doit s'habituer à ne plus avoir de prêtres et que finalement eh bien, ces ministères institués vont remplacer le curé, les prêtres, et puis on va s'en accommoder comme ça ?
Justement, ça fait, moi depuis que je suis prêtre, je me bats contre cette idée permanente des vases communicants. Quand il y a beaucoup de prêtres, il n'y a pas besoin de laïcs au service de la mission, et donc c'est le prêtre qui fait tout. Et quand il y a moins de prêtres, à ce moment-là, on mobilise les laïcs, et on prend acte qu'il n'y a plus de prêtres, et on met les laïcs en responsabilité. Mmh. C'est une vision qui n'est pas chrétienne. Ce n'est pas la vision qui correspond à la théologie de l'Église. L'Église est tout entière ministérielle. C'est dans les années 72-73 des assemblées plénières de la Conférence des évêques de France qui avait produit des documents comme ça. L'Église est un peuple sacerdotal, tout entière envoyée à annoncer l'Évangile. Tout entière. Jean-Paul II n'a jamais cessé de marteler cela. Benoît XVI n'a jamais cessé de marteler cela. François, depuis 12 ans, ne cesse pas de marteler cela. Et on continue d'avoir cette image de vase communicant Moi, je suis laïque, je comprends que monsieur le curé ne peut pas tout faire, donc j'accepte d'aller l'aider. Je vais à l'EAP, je vais au conseil pastoral pour aider monsieur le curé. Mais sous-entendu, quand je dis ça, l'idéal serait quand même que ce soit lui qui puisse faire les choses, et moi je reste chez moi, je vais à la messe le dimanche, et je bénéficie des services du prêtre quand j'en ai besoin. Bon, ben, cette vision ne va pas. C'est toute l'Église qui est tout entière ministérielle. En son sein, il y a des ministres ordonnés, il y a des ministres institués, et il y a le sacerdoce de tous les baptisés de toute façon. Et toute l'Église est ça où elle n'est plus l'Église du Christ. Donc, les ministères institués n'ont pas pour vocation de remplacer le ministère ordonné, mais d'être complémentaires avec le ministère ordonné au service de la sacramentalité, de la ministérialité de toute l'Église. Et des communautés, et ça l'expérience le montre déjà là où ça se vit, hein, des communautés qui ont en leur sein des états de vie, des ministères institués qui sont actifs, des laïcs qui sont réellement en prise au sérieux de leur engagement baptismal et de leur sacerdoce baptismal, ces communautés-là sont appelantes pour des vocations plus spécifiques, consacrées, et des vocations de prêtres. Et pour moi, le fait que nous ayons actuellement 6 séminaristes et qui me disent que la vision qui a été partagée dans la lettre diffusée aux chrétiens de la ville de Tarbes ou des ensembles paroissiaux de Tarbes, pour eux, c'est un encouragement. Ils se voient très bien prêtres et pasteurs de telle communauté chrétienne. Ça vient m'encourager justement à poursuivre dans cette direction, parce que c'est une Église qui ne se construit pas en prenant acte qu'il n'y aura plus de prêtres. C'est une Église, au contraire, qui veut qu'il y ait des prêtres. Et pour qu'il y ait des prêtres, il faut qu'il y ait des communautés qui soient vraiment des communautés chrétiennes, qui portent la mission et qui deviennent appelantes pour des prêtres, parce que de toute façon, sans le ministère des prêtres, il n'y a plus d'Église. C'est pas ou l'un ou l'autre, c'est tous ou personne.
Voilà, en d'autres termes, si on exerce tous pleinement notre sacerdoce baptismal, eh bien, on donne envie.
Et on donne envie à d'autres chrétiennes de nous rejoindre et à certains parmi eux de consacrer leur vie totalement dans la vie religieuse ou dans le sacerdoce ministériel.
Alors, un autre point qui est lié, hein, puisqu'il s'agit toujours de la vie des communautés chrétiennes, et c'est un point qu'on a pu observer à l'occasion de votre visite pastorale dans l'ensemble paroissial de Pouillastruc, pardon, c'est l'ouverture et l'utilisation des églises. Alors, c'est quelque chose qui revient souvent, mais à l'occasion de cette dernière visite pastorale, vous avez rencontré notamment un groupe de la Légion de Marie, assez touchant, qui se retrouve chaque semaine pour prier dans une petite église, dans un petit village, à Boulin exactement. Et vous avez dit votre immense joie quand vous les avez rencontrés, votre immense joie de voir cet exemple finalement.
Alors je les avais déjà rencontrés notamment dans les locaux de la Légion de Marie à Lourdes, et donc on était heureux de se retrouver, et moi je suis très heureux de cette fidélité de gens qui n'attendent pas que monsieur le curé soit là pour célébrer la messe, pour ouvrir l'église et s'y retrouver pour prier, mais le font avec une fidélité remarquable. Ils prient pour le diocèse, ils prient pour les intentions qui leur sont confiées, et ça, ça fait du bien, parce que c'est ceux qui se tiennent au bord du puits et qui en remontent l'eau en permanence pour irriguer la terre à laquelle tout le monde vient s'abreuver.
Oui, mais ça va faire plaisir aux membres du groupe de la Légion de Marie qui écoutent Radio Présence et qui vous ont dit aussi qu'ils vous écoutaient chaque semaine sur Radio Présence. C'est ça aussi, hein, la communion des saints, c'est déjà ça.
Absolument, absolument.
Alors un dernier point, Monseigneur Mika, ce dimanche c'est les Rameaux, c'est l'entrée dans la Semaine Sainte. Alors un petit point sur les Rameaux, il y a toujours énormément de monde à la messe des Rameaux, et disons-le, quelquefois ça nous agace, quand on est présent à la messe tous les dimanches, on s'agace facilement le dimanche des Rameaux de voir soudainement énormément de monde, parfois du monde qui déborde sur les parvis, parce que chacun veut son petit bout de rameau, peut-être par tradition, peut-être parfois un peu par superstition. Alors ça peut agacer facilement. Je voudrais qu'on termine avec ça, parce qu'au fond c'est quand même très sérieux. Est-ce qu'on a raison de s'agacer, ou qu'est-ce qu'il faut faire pour bien accueillir ces personnes qui viennent peut-être sans trop savoir pourquoi chercher leur petit brin de rameau?
Mais justement, sans trop savoir pourquoi, Dieu a mis dans leur cœur, en les créant homme ou femme, le désir de Dieu, le sens du sacré et l'intuition qu'il y a un Dieu. Eh bien, elle se traduit dans des gestes, Et bien sûr, tout est mêlé, tout n'est pas... Qui a une foi chimiquement pure, qui ou ne se mêle pas du rêve, du désir, qui ne vient pas forcément à 100% complètement de l'Esprit-Saint? Ben, bien malin, celui qui peut affirmer ça, et encore s'il l'affirme, ben, déjà il y a un gros péché d'orgueil derrière, sans doute. Bon, bref... J'ai en tête, j'ai réfléchi à ça à propos des gestes qui sont posés à Lourdes, toucher le rocher, le geste de l'eau, enfin, etc., etc. Alors certains, mais c'est de la magie, ou c'est... Bon, le pape François dit des choses très très belles sur la piété populaire, sur les gestes qui accompagnent la piété populaire. Moi, j'ai le souvenir de ce qu'avait dit un jour l'archevêque de Toulouse, un groupe d'étudiants, Monseigneur Coligny, qui avant d'être à Toulouse était en Corse. Quand il est devenu évêque, c'était en 1962, il arrive un jour dans un village corse, 68 passe par là, et une vieille dame corse, tout en noir, etc., se précipite pour embrasser l'anneau que les évêques portent à leur annulaire. Bon. Et lui retire sa main un peu sèchement, pour dire, habité par l'idée que c'est de la superstition, que sais-je, et il retire sa main un peu sèchement en lui disant à cette dame, « Mais enfin, je ne suis pas le bon Dieu. » Bien. Et cette dame le regarde d'un regard limpide, et elle lui dit avec un sourire tout tranquille, « Et vous croyez que je ne le savais pas ?» J'ai retenu ça. Plus tard, j'ai lu des choses. Et dans ces choses que j'ai lues, l'homme n'est ni ange ni bête. Il est fait de sentiments, et ces sentiments, ils sont portés par nos sens. Et les cinq sens, il y a le toucher, l'odorat, l'ouïe, etc. On a besoin, pour accéder à l'invisible, de signes visibles. Nos sacrements sont pétris de cette réalité anthropologique de base. On n'est pas des anges, on n'est pas des bêtes. Les choses concrètes sont des véhicules qui nous permettent d'accéder à l'invisible. C'est des gestes que l'on pose. Mais on ne s'arrête pas aux gestes. Mmh. Les gens qui ont la foi, ils savent qu'on a besoin de poser des gestes. Quand on aime quelqu'un et qu'on lui offre un bouquet de fleurs, on ne lui offre pas 50 euros de fleurs. On lui offre à travers ça, on donne un signe concret, visible, sensible, odorant, beau, d'un sentiment qui n'est pas visible. Bon, ben la relation à Dieu, elle a besoin de ça aussi. La foi, elle a besoin de ce type de support aussi. Et donc, les rameaux, c'est un élément concret, visible, une belle assemblée avec des bouquets de rameaux en tous sens, ça de l'allure, et ça porte quelque chose de l'invisible de Dieu. Alors, bien sûr, ça refait le geste historique de l'acclamation de Jésus, d'entrée à Jérusalem. Très bien. Mais il y a quelque chose qui parle au sens, comme de l'encens qui satisfait l'odorat, certains, ça en agace d'autres, comme la belle musique, comme un beau tableau, une belle œuvre, une belle atmosphère. Enfin, voilà, tous ces sentiments-là. Évidemment, si on s'arrête à ça, si on alimente ça, si on crée des célébrations seulement pour satisfaire les sens-là, Dieu est absent et c'est nous qu'on adore. OK. Mais ce n'est pas parce qu'il y a du beau, du concret, des gestes posés, etc., que nécessairement c'est de la superstition. C'est un véhicule qui nous permet d'accéder à l'invisible. Et on ne peut pas accéder à l'invisible sans ces signes visibles qui nous y aident et qui font fonctionner la fonction symbolique donc, dont on a besoin pour accéder à Dieu. Voilà. Et donc, moi, je suis très, très à l'aise avec le fait que y a des gens qui viennent à l'église une fois par an, peut-être le jour des rameaux. Ils viennent faire bénir leur rameau, ils repartent à la maison. Je me garderai bien de juger leur motivation. Ce qu'il y a derrière ce geste, qui est un geste de confiance, c'est la femme hémorroïs qui se précipite vers Jésus dans la foule qui cherche à l'écarter pour toucher la frange de son vêtement, convaincue que cela va la guérir. Voilà. Ben, Jésus, lui, il repère qu'une force est sortie de lui. Bon, moi, je vais essayer de faire la même chose, c'est-à-dire de me garder de tout jugement et d'accueillir avec beaucoup, beaucoup de bienveillance ce que... spontanément, la foi pousse les gens à faire, à poser comme geste, et puis à respecter infiniment cela. Il y a souvent bien plus que dans ma propre foi, si elle est trop cérébralisée, intellectuelle et prétendue pure.
Merci beaucoup, Monseigneur Mika, pour cette réponse très claire. On vous souhaite une belle fête des rameaux. Vous êtes à la cathédrale ce dimanche pour les rameaux, et on vous souhaite également une belle entrée dans la Semaine Sainte.
Et rendez-vous mardi pour la messe chrismale.
Bien sûr, à 18h à la cathédrale.